RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC. Cet épisode, vous l'avez attendu parce qu'il s'est passé un truc dingue ce week-end. On va évidemment faire un spécial trades avec cet échange entre Anthony Davis et Luka Doncic. Nous avons le fan des Mavs, Stephen Brun.
Salut Pierrot.
Dans la salle. Le fan des Lakers, Fred Weiss.
Bonjour.
Salut Fred. Et un observateur de l'ONU, on va dire, un neutre, Arnaud Valadon.
Salut Pierrot.
Est-ce que vous êtes excité par cette nouvelle incroyable ?
Oui.
On a hâte que ça commence quand même.
On a hâte de savoir.
Je sais pas, Steve, il dit rien depuis deux jours. On sait pas s'il est content ou pas content.
Je suis en train de regarder le programme du Moscato Show.
Que je crois que Steve, il fait rien à voir.
Que j'ai hâte de recevoir.
J'ai l'impression que Steve, il fait la méthode Coué. Se persuade que.
De quoi ?
Que c'est bien ?
C'est bien.
Ça peut être bien.
Les Mavs sont pas moins forts, hein, à mon sens.
On va en parler tout de suite. Qui est le gagnant du deal Lakers-Mavs. Mais il y a un autre trade qui nous excite, c'est l'arrivée de Darren Fox à San Antonio aux côtés de Victor Wembanyama. Êtes-vous hypé, messieurs, dames ? Par ce trade, messieurs, dames, parce que des femmes nous écoutent, Frédéric.
Oui, mais j'espère, nous demandez à nous, quoi. En fait.
Non, je m'intéresse.
Tu penses qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent ?
Je pense,
quel est le pourcentage ?
28%.
28% de femmes nous écoutent.
Le mec, il a sorti un chiffre comme ça, 28%.
Ouais, mais je pense
déjà, il y a Valérie.
Qu'il est excellent. De temps en temps, tout à fait, ouais. Il y a Letty.
Il y a Letty, de temps en temps.
C'est ma maman, de temps en temps, quand elle arrive à appuyer sur le bouton.
Alors, dans la partie historique, vous allez me raconter un trade fou de l'histoire de la NBA. Le quiz, il n'y a pas de thème transfert dans le quiz, voilà. Ce serait une boucle, comme tu aimes, Fred.
C'est magnifique.
On partira d'un joueur, on finira avec ce joueur et on passera par la planète basket. Vous êtes prêts ? C'est parti pour votre Basket Time spécial échange Anthony Davis, Luka Doncic.
Breaking news, the Lakers and Mavericks making it a blockbuster night. Luka Doncic headed to the Lakers, Anthony Davis headed to the Mavericks.
This is the most shocking trade in NBA history.
It's shocking.
Oh, it's crazy.
Doncic, well, spinning, turning.
Doncic, he's spinning, fade away on the left. Glass helps him out.
Doncic, step back three. It is good.
And we know this left wing step back. You know it's coming. That is his shot.
He controls every facet of the game.
Luka's that guy.
Luka's that special.
Doncic with the desperation.
Luka splits a double. Keeps the dribble alive. All the way to the hoop. Scoop to the hoop. What a foul.
Alors, voici, on y est. Ça y est, spécial Basket Time sur ce trade incroyable. Vous avez entendu quelques réactions de la nuit sur ce blockbuster trade. Donc, Anthony Davis à Dallas, Luka Doncic aux Lakers. Qui pour vous est gagnant de ce trade ? Peut-être tout le monde, certainement pas Luka à titre personnel parce qu'il perd beaucoup d'argent. On va y revenir. Arnaud Valadon, les détails, parce que évidemment un trade, ça implique toujours beaucoup de choses.
Surtout quand on a dû se mouiller les yeux plusieurs fois pour croire, je crois que c'est dimanche matin que
dimanche
ça
matin,
tombe.
Exactement.
Tu te mouilles les yeux, t'as pas la nuque.
Oui, les deux un peu. Bah, tu penses
parce qu'il a les yeux collés au réveil, Arnaud.
C'est ça. Les Lakers reçoivent donc Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris. Les Mavs reçoivent Anthony Davis, Max Christie et un premier tour 2029 des Lakers. Et le Jazz, qui est là pour en gros équilibrer les masses salariales pour que ça colle, reçoit Jalen Uchifino et deux seconds tours de draft 2025. Voilà ce trade qui, je pense que tout le monde, la première action, c'est est-ce que c'est pas une fake news ? Eh bien non.
Alors, c'est pas une fake news. Par quoi on commence ? Peut-être par le sportif. Sur l'aspect sportif, qui gagne, qui perd quoi, Fred ?
Qui gagne à l'instant T ou qui gagne sur le long terme ?
Les deux.
À l'instant T, c'est les Mavs pour moi. Parce qu'ils se renforcent avec un excellent défenseur. Ils étaient déjà forts à l'intérieur. Ils ont cette capacité maintenant à avoir Anthony Davis qui rêvait depuis des années de jouer 4, qui va pouvoir y jouer 4 parce qu'il y a déjà des postes 5 à Dallas.
Il y a Gafford et Lively.
Il y a Gafford et Lively. Donc tu te dis que bah, tu as ce mec-là qui peut défendre. Il y a toujours des joueurs très intéressants à l'extérieur. Tu as gardé Kyrie Irving, tu as Klay Thompson, évidemment. Tu as Spencer Dinwiddie, tu as Quentin Grimes, tu as Hardy. Tu as quand même de la matière sur l'extérieur. Moi, je pense qu'ils gagnent sur ce coup-là. Parce que
tu penses qu'à l'instant T, ils sont plus forts carrément ? Parce que tu perds quand même Luka Doncic. Hein.
Alors, objectivement, Luka Doncic.
Voilà, faut pas oublier, même s'il était blessé, voilà, quel joueur il est.
Joueur incroyable, mais il y a deux choses. La première, défensivement, on sait quand même les capacités que peut avoir Luka, et c'est peut-être un petit peu limité. Et ensuite, deuxième chose pour moi, c'est qu'il joue à son rythme, Luka. Il aime pas que ça court, il aime bien avoir le ballon dans les mains, etc. Et donner la bonne passe décisive. Donc statistiquement, c'est un joueur fantastique. Défensivement, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Pour moi, Anthony Davis apporte. Donc à l'instant T, je dirais que c'est les Mavs qui gagnent le
deal. Et à l'instant T, les Lakers ?
Ben pour moi, je demande à voir. Parce que oui, quand tu as Luka Doncic, bien sûr, ton attaque devient flamboyante. Mais encore une fois, même problème défensif. Et en plus, ben tu n'as plus de pivot, en fait. Déjà, tu demandais un pivot quand tu avais Anthony Davis, tu perds Anthony Davis. Donc forcément, ça devient compliqué. Donc sans mouvement des Lakers, ce qui n'arrivera pas, hein. Il y aura forcément un mouvement. Mais sans mouvement des Lakers...
Attends, mais il y aura un mouvement là, avant la deadline
Ils sont obligés de bouger.
Il y a quoi sur le marché?
Obligatoire. Je sais pas. Oui, Vucevic, on en parle beaucoup. Valanciunas, je ne sais pas. Mais au moins un pivot, un vrai socle à l'intérieur. Même si les deux joueurs qu'on a cités, ce n'étaient pas les plus grands protecteurs de cercle de l'histoire. Mais il faut quelqu'un à l'intérieur. Il faut des points aussi de là, il faut ce secteur intérieur un petit peu plus rempli. Mais dans l'avenir, oui, se dire que les Lakers, le pôle d'attraction de la NBA, un des pôles principaux d'attraction de la NBA, reçoit un joueur de 25 ans, bientôt 26,
30 points de moyenne.
Qui va être la nouvelle figure et qui va être au top en 5-7 ans. Bah, c'est plutôt un point ultra positif.
Steve, t'es d'accord avec ça ?
Oui. Là, sur les deux visuels d'équipe, des rosters qu'on a actuellement quand on enregistre l'émission, pour moi, il n'y a pas photo. Dallas est une bien meilleure équipe que celle des Lakers. Les Lakers ont une vraie problématique, c'est que même avec Anthony Davis, c'était le 19e rating défensif de la Ligue. Alors qu'Anthony Davis, c'est peut-être ce qui se fait de mieux avec Victor Wembanyama actuellement
en
défense. Là, vous l'enlevez, vous récupérez un garçon qui n'est pas le plus grand des défenseurs, Luka Doncic, qui vous apporte autre chose. Donc ça veut dire qu'il va falloir, je ne sais pas quand ils vont pouvoir défendre.
Après Vanderbilt est revenu aussi, ce qui peut apporter un petit peu défensivement, même si c'est pas un joueur, il va pas jouer 30 minutes, mais il a un petit peu cette touche
donc
défensive.
Donc il y a une vraie problématique pour les Lakers. Moi j'attends de voir s'ils vont bouger avant jeudi soir, hein, qui est la deadline pour les trades. Maintenant, je sais pas, Lucas, je suis tellement émerveillé par ce garçon-là. Aujourd'hui, en NBA, il n'y a plus beaucoup de garçons qui me font réveiller la nuit pour regarder des matchs NBA. Lucas en fait partie. Donc, c'est
un fait. Maintenant, tu vas regarder les matchs des Lakers?
Non, je vais quand même regarder. Regardez, je ne vais pas me lever, en fait. Voilà, je ne vais plus me lever. Mais non, Lucas, c'est une plus-value hors norme. On connaît ses qualités, on ne va pas redébattre.
Mais pourquoi il le trade, alors ? Il y a quand même des raisons, si tout le monde a été choqué, c'est parce qu'on n'imaginait pas Dallas...
Parce que les superstars comme ça
foutent dehors, parce que c'est ça qui se passe, ils l'ont foutu dehors.
Alors, oui, clairement. Quand c'est ta franchise qui décide de t'envoyer au Lakers, c'est que clairement, t'es mis dehors. C'est ça, en fait, les plus grosses interrogations qu'on a, c'est à savoir pourquoi... Nico Harrison, qui est le GM et qui a pris cette décision-là parce qu'il a réussi à convaincre le propriétaire de faire ce move. Nico Harrison, c'est pas un mec qui a loupé son brevet des collèges. Hein. Quand t'es à ce poste-là, t'as fait des bonnes études, t'as quand même une énorme maîtrise du business NBA, t'es plutôt quand même intelligent, t'es pas là pour faire... J'ai pas envie de croire que Nico Harrison a fait ce move juste pour qu'on parle
c'est un énorme pour lui quand même.
Alors c'est quand même pas la première fève de sa carrière, parce qu'avant il était dirigeant chez Nike, il a quand même laissé partir Stephen Curry. Mais quoi? Bah c'est une fève.
Arrête Arnaud, il a fait un meeting avec Steph Curry pour qu'il signe chez Nike, il est parti chez Under Armour, c'est Nico Harrison.
Bah il a du flair.
Ok d'accord, donc David Kahn est une merde de dirigeant.
Non mais après c'est... Ça n'a rien à voir.
Le mec s'est arrêté de parler là.
Ça n'a rien à voir là pour le coup.
Il a fait des fêtes, David Kahn aussi.
Oui.
En NBA.
C'était pas des fêtes monumentales.
Ah, de pas prendre Steph Curry à la draft, c'était pas une fête monumentale.
Après Johnny Flynn, voilà, c'est la draft, c'est plein d'incertitudes. Là quand même, en 10 ans.
En fait, vous essayez de trouver des choses parce que Nico Harrison.
Tu peux pas me dire que c'est un crack comme dirigeant.
Vous essayez de fou. Ah, je vais faire venir Daniel Gafford et drafter Derek Lively. C'est pas les bons moves ça, PJ Washington. C'est pas les bons moves ça.
Je te dis pas que c'est des mauvais moves, mais
Luka
Doncic, tu récupères que ça.
Tu récupères que ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai posé la question à quelqu'un des masses, pourquoi ils ont pas sondé le marché. Il m'a répondu, il me dit pour un transfert de cette magnitude-là et de cette puissance-là pour Luka Doncic, si à un moment donné,
il y a une fuite, ça,
tu parles à 3-4 équipes. Il me dit les autres équipes vont vouloir te baiser, c'est-à-dire qu'elles vont faire fuiter que tu mets Luka Doncic sur le marché.
Non, ça c'est vrai.
Et
oui.
Si jamais tu récupères personne et que tu échanges pas Luka Doncic, ton joueur il est mort parce qu'il sait que tu as voulu le bazarder. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de
ça,
très discret
oui.
Et qui se fait en 1-1, Rob Pelinka, Nico Harrison qui ont des vraies connexions. Tu peux pas mettre Luka Doncic sur le marché.
C'est-à-dire
sinon
c'était
t'es
un
mort.
One shot. c'était soit ça, soit rien.
Oui, oui.
Et on essaye surtout que ça reste secret.
Et la discrétion la plus totale, c'est parce que Nico Harrison a confiance en Rob Pelinka, qui sont amis et qui disent, écoute, on va parler entre toi et moi et ça restera entre toi et moi. Parce que la NBA est un monde impitoyable. Hein, si jamais...
C'est quand même incroyable que ça ne sorte pas. Hein. Vraiment, même s'ils se connaissent bien, même s'ils ont une grosse connexion,
c'est quelques jours. C'est
complètement fou.
Si j'ai bien compris.
C'est complètement fou.
Début janvier, il y a eu un match Dallas... je crois que Los Angeles.
3-4 semaines, ça trotte dans la tête des dirigeants des Mavs, mais il doit y avoir d'autres choses. C'est inexplicable qu'un joueur de la qualité de Luka Doncic, qui a 25 ans.
Alors, on dit qu'il n'est pas sérieux sur sa blessure, là, qu'il a pris 10 kilos. Est-ce que tout ça est vrai?
Je ne sais pas s'il a pris 10 kilos.
Est-ce que c'est une vraie raison pour s'en séparer? C'est ça aussi la question.
Ben oui, parce que
le garçon reste.
Parce que tu ne veux pas le prolonger au max.
Oui, voilà, c'est ça. Le risque est trop grand, quoi.
Comme tu penses qu'il ne prend pas assez soin de son corps, tu penses qu'il a un risque de blessure, qu'il ne sera pas au top, et ben maintenant,
en fait, avec 345 millions,
il y a un message qui est envoyé à tous les joueurs là. T'es pas à fond, tu signes plus le max.
En tout cas, aux Mavs.
Oui,
non, je pense que c'est pour tout le monde. Je pense que c'est un vrai symbole.
À un moment donné, et Fred a raison de l'aborder, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas être une superstar NBA, avoir des montants pharaoniques comme ça, et peut-être espérer que 345 millions. Et pas donner d'autre chose que des 30, 10 et 8 sur le parquet. On attend autre chose de toi.
Il les a mis en finale quand même.
C'est un raisonnement qu'on a tous autour de la table où on voit que les performances sportives. À un moment donné, quand tu es dans un club, Pierrot, tu es bien placé pour le savoir, fan du Paris Saint-Germain, tu demandais quand même autre chose à certaines superstars qui étaient au Paris Saint-Germain. Tu peux pas te contenter que des. Avec l'argent qu'on te donne, il faut que ce soit plus. Yannis Antetokounmpo est un mec sur qui tu peux donner 345 millions à Yannis Antetokounmpo. Est-ce que tu as déjà entendu, Pierrot, quelqu'un dire de Luka Doncic que c'est un gym rat, c'est un mec qui dort à la salle, que c'est un mec qui travaille,
un peu ça aussi de Jokic, tu vois.
Et il bosse, Jokic.
Tu te rends compte, la bascule entre Nikola Jokic à 4-5 ans et Nikola Jokic aujourd'hui, sa transformation sur son corps, c'est pas parce que c'est un mec à part dans le basket.
Et que tu le vois faire des
progresseurs. En plus, tu mens, Pierre.
Pourquoi?
Tu as jamais entendu ça. Non, mais excusez-moi, toi, tu n'as jamais rien dit sur la qualité.
Tu vois ces vidéos de teuf,
c'est ce que je suis en train de te dire.
Son amour de l'alcool, tout ça, on le voit.
C'est pour ça que je dis que tu es en train de mentir. Tu mens, parce que c'est ce que tu vois, c'est pas ce qui se dit. Personne en NBA n'a jamais critiqué la capacité de travail de Jokic, en tout cas depuis quelques années.
En fait, il a des soupapes.
Tu l'as vu, tu vois des trucs, il passe ce qu'il a envie de poster. Tu sais pas ce qu'il fait l'été réellement.
Il a des soupapes de décompression qu'on voit quand il est en Serbie et tout.
J'aime bien les soupapes.
Et on voit pas comment il travaille. Il est en mode. C'est pour ça qu'il a besoin d'évacuer comme ça quand il revient en Serbie, parce qu'il bosse énormément. Moi, j'ai quand même un bémol sur. Sur le papier, ok, tu te dis les Mavs, c'est plutôt intéressant, mais c'est un tel tremblement de terre. Le projet, c'était Luka Doncic, et là, aujourd'hui, tu nous dis, c'est AD, c'est Kyrie, qui est quand même pas le plus fiable en termes de présence de match. Il est souvent absent, Kyrie.
Alors ça va être une clé pour Dallas, quand même. Faut qu'il garde Kyrie en forme.
Very good player.
Mais Kyrie, il est incroyable, mais il faut qu'il joue.
Il a raison, Arnaud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Mavs vont être un peu dépendants de l'état de forme de Kyrie Irving, quand même.
C'est le seul créateur qu'il y a maintenant dans le football. Tous les mecs sont des finisseurs.
Et s'il est fatigué ou s'il est blessé en play-off, ils sont morts. Il est mort pour être champion, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est une très belle équipe. Tu peux même les imaginer champions. Il faut quand même que ça se passe bien pour Kyrie Irving, là.
Oui, bien sûr, mais c'est comme toujours.
Et ça se passe pas toujours bien pour lui.
Alors, tu sais qu'il en rêve depuis des années d'avoir une équipe capable d'aller peut-être très loin.
Il suffit qu'il reçoive un message de Neptune et puis il peut partir en sucette, hein.
C'est possible.
Il va faire un contrat avec Thomas Pesquet, gros, dans la fusée. Mais c'est vrai que cette équipe des Mavs, maintenant, elle est réunie autour de trois garçons qui n'ont jamais été... Numéro 1, clairement identifié. Anthony Davis a toujours été un bis aux Lakers. Klay Thompson fait partie des Splash Brothers, mais c'était Steph Curry avant lui. Et Kyrie a toujours été aussi un bis. Là, Kyrie, il a énormément de responsabilités sur les postes extérieurs. Il y a deux créateurs. Il y en a un, Kyrie, et Spencer Dinwiddie dans une moindre mesure. Oui. Tout le reste, ce sont des mecs forts joueurs, scoreurs, mais des finisseurs. PJ Washington est un joueur fantastique, mais qui ne peut pas créer pour les autres. Grimes, Hardy, ce sont des scoreurs, mais qui ne créent pas pour personne.
Hardy, il crée pour lui. Dès qu'il est blanc, il shoot.
Il crée pour lui. et Klay Thompson, pareil. Maintenant, c'est une bonne équipe défensivement. Ça va être très compliqué d'aller scorer dans la raquette.
Ils peuvent être champions ou pas, très franchement, cette année-là?
À l'Ouest, ça me
paraît. Si Anthony Davis continue sur sa saison-là.
Le problème, c'est qu'il va y avoir un temps d'adaptation quand même. Tu peux pas juste, c'est pas parce que tu mets Anthony Davis dans l'équipe, il va falloir retrouver des repères. C'est Kyrie, il a joué avec Anthony Davis qu'avec Team USA, mais il y a pas de vraie connexion.
Ils vont pas être bons à prendre en playoff quand même. Hein.
Non, clairement.
Ouais, ça reste quand même le champion de la conférence Ouest. T'enlèves Luka, mais
Oui, c'est plus du
Est-ce
tout.
Que tu peux considérer que c'est le champion de la conférence ouest de l'année dernière, vraiment.
Bon, bon alors... mais voilà, t'as un vécu quand même, t'as un bon coach, Jason Kidd.
Donc personne croit au titre.
Non.
Ok.
Alors, juste, je veux rebondir sur ce que vient de dire Arnaud. Un bon coach qui n'était pas au courant du transfert, quand même.
Ah oui,
et à qui on a annoncé, en gros, c'est moi qui prends la décision.
Non, mais c'est pour ça, moi. Tu vas le tremblement de terre est tellement fort, il faut combien de temps pour t'en remettre ?
Alors, les Lakers.
Et pour revenir sur Anthony Davis au poste 4, l'année où les Lakers sont champions, Anthony Davis joue uniquement poste 4, puisque c'est Javale McGee et Dwight Howard qui sont.
Et c'est ce qu'il voulait, en plus, lui.
Oui, c'est ce qu'il voulait. Il avait fait une campagne de playoff énorme. Maintenant, Anthony Davis, je t'adore, mec, t'es un joueur exceptionnel, tu es en train de faire une saison énorme. Par contre, te prends pas pour un poste 4 à la Kristaps Porzingis, s'il te plaît. Commence pas à passer ton temps derrière la ligne à 3 points parce que cette saison t'es énorme, parce que tu mets tes fesses dans la raquette. Donc un poste 4, pas au large.
C'est fou comment le gars ne peut pas voir ça.
Il a tellement le contact quand même. Hein.
Comment il ne peut pas voir ça, qu'il est monumental en poste 5, mais non, je veux jouer 4.
Et il peut jouer 4 en étant près du cercle, non ?
Oui.
Mais les deux ensemble, ça oui. peut être vraiment sympa. Quoi.
Les deux avec Gafford.
Ou Gafford ou Lively.
Lively est blessé un moment, là, je crois.
Oui, mais deux mois encore. Les deux dans la peinture.
Peut-être que les matchs ont bougé encore.
Tu crois ?
Je sais pas où.
C'était ressortir un... Non, pas un pivot.
Kyrie va partir, je crois.
Bon, juste sur les Lakers, c'est on va attendre que, quoi, dans le temps, 3-4 saisons.
Isaac, le fait qu'ils feront rien cette année. Parce
voilà.
que quand tu fais ce move,
là ils se projettent bon. Sur le moyen terme. Là.
Ah, mais en termes, moi,
ils sont cinquièmes de la conférence.
Oui, mais justement, pour moi, tu fais ce move en disant, bon, on va pas pouvoir être champion cette année.
S'ils bougent pas avant jeudi, oui. Mais s'ils bougent, on verra. S'ils font un gros...
Mais qui ils peuvent faire ? Donc, tu as dit Valanciunas.
Moi, je vois Valanciunas. Alors, comme ça,
t'as Nurkic, hein. Alors, qui est en échec.
Mais qui n'est pas un gros défenseur,
Nurkic,
non ?
C'est pas un gros défenseur, il est en échec partout où il passe. C'est un peu compliqué, quand même.
Et alors, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Est-ce qu'ils peuvent pas faire Dede Ayton ? Que Portland,
qui était énorme cette nuit, hein.
Qui peut bouger, ils sont en reconstruction.
Dans l'absolu, vu le niveau affiché actuellement, oui, mais tu sais pas ce que t'as avec DeAndre Ayton. Hein. Mm-hmm. C'est le problème.
T'es pas sûr qu'il soit là
t'es,
tous les jours.
T'es pas sûr, là, il est bien à Portland, il est planqué. Quand il joue bien, tout le monde dit waouh, bravo. Quand il joue mal, personne ne le voit.
J'ai vu une rumeur, Mitchell Robinson qui va revenir de blessure à New York.
C'est cool, il changera d'hôpital. L'hôpital de New York, l'hôpital de.
En tout cas, cet été, ils vont tout changer encore, non ? Et combien de temps LeBron encore aussi ? Il y a ça comme question. Parce qu'après, c'est Lucas qui va prendre
l'investissement, c'est pour ça.
La signature de Lucas, c'est pour préparer l'après LeBron et avoir encore une superstar. Il ne raisonne qu'en termes de superstar. Et Lucas est fait. Lucas, il y a un mec qui aime quand ça brille.
Va falloir reconstruire tout autour de lui, quoi.
Oui, après, tu as Austin Reeves est là. Tu as des garçons qui sont là.
Pour l'instant.
Qui ?
Connect, Dalton Connect.
Austin Reeves, il pouvait faire partie.
Non mais voir, rien qu'imaginer, Lucas et LeBron.
Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont fait un début de saison bien meilleur que ce qu'on attendait, et que finalement ils ont un roster sympa. Ils ont quand même des bons petits joueurs, et que c'est meilleur que ce qu'on imaginait, non ? Début de saison, on les voyait pas flamboyants.
Hein. Moi, je les voyais pas.
Cinquième. Ils viennent de gagner au Garden avec LeBron James.
Bon, LeBron fait une saison incroyable.
Incroyable. Oui.
Et ça va continuer du coup, sans Anthony Davis.
Peut-être que l'avenir, c'est Bronny.
Oui, on continue ce spécial trade et on va rester à l'ouest, mais direction cette fois-ci San Antonio.
De'Aaron Fox, sources telling that he will team up with Wimby in a three-team trade.
Is the Kings sending star guard De'Aaron Fox to San Antonio as part of a three-team trade that brings Zach LaVine to Sacramento.
Here comes Fox. Game clock down to 4. Fox, penetration. Fox, layup. Yes! De'Aaron Fox!
Are you excited to see Wimby and De'Aaron Fox?
Yes, bro.
I am too.
And there is Victor Wembanyama. Oh, mama.
Oh, De'Aaron Fox, step back. Oh, he made Nikhil Alexander Walker touch the earth.
Side Wimby just caught it in midair, facing the opposite direction.
De'Aaron, free ball.
Oh, we got a 60-piece. We are witnessing history, ladies and gentlemen. He's that dude.
Alors, l'autre trait d'importance, c'est le départ donc de Darren Fox de Sacramento pour les Spurs. Arrivée de Zach LaVine à Sacramento en provenance de Chicago. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce trait d'Arnaud ?
Écoute, les Spurs reçoivent De'Aaron Fox, Jordan McLaughlin. Sacramento reçoit Zach LaVine, Sidy Sissoko, 3 premiers tours de draft, ainsi que 3 seconds tours de draft. Un seul provient vraiment de San Antonio. San Antonio en avait beaucoup d'autres franchises, mais San Antonio ne débourse qu'un seul tour de draft qui lui appartenait au début. Et Chicago reçoit Zach Collins, Trey Jones, Kevin Werther, et ils récupèrent leur propre tour de draft 2025 qu'ils avaient tradé. Donc, en gros, Sacramento reçoit un peu, San Antonio reçoit un All-Star, et et Chicago reçoit pas grand-chose.
Chicago, ils vident la salle. Ils veulent encore sortir.
GM, là,
vous tuez. Mais surtout, ils vident sans rien récupérer, même pas des tours de draft vraiment pour l'avenir conséquent. Enfin, ils ont rien.
Et ils sont chauds pour ressortir Vucevic maintenant.
Oui, mais je comprends pas tellement la construction de Chicago. Kalinic Chovas, encore une fois, je suis pas sûr de savoir ce qu'il veut faire. Il y a pas de... En fait, normalement, tu es en mode reconstruction quand tu te sépares de joueurs.
Ah, le prochain qui va sortir, c'est lui. Hein.
Bah, bien sûr.
Karnišovas, c'est le prochain qui va sortir.
Obligatoirement.
Parce que là, ils n'ont plus grand monde.
Alors, en attendant, on va parler de San Antonio. Est-ce que vous êtes hypé? C'est la question qu'on vous pose, Arnaud.
Oh, totalement. Tu fais venir un meneur All-Star, t'envoies un super signal à Victor Wembanyama, qui ne joue que sa deuxième saison. Regarde, on arrive à te faire venir des super joueurs pour t'épauler. Tu as un back court de l'avenir incroyable entre De'Aaron Fox, Stephen Castle, Devin Vassell notamment, et tu as toujours tonton Chris Paul qui est là, qui va venir dépanner. Clairement, je suis hypé. C'est un super move de la part des Spurs qui, voilà, est une franchise. C'est pour ça que ces derniers mois, je me disais, ils ont un historique un peu conservateur à savoir faire des moves, mais pas être très prudent.
Pas là, très
ils ont
flashy, saisi. Pas très risqué, ouais.
Voilà, ils ont saisi l'opportunité. Chapeau. À Brian Wright, le GM, et à la franchise, parce que là, tu as un axe 1-5 incroyable.
Avant de parler de ce que ça va donner, juste Fox, vous le situez où dans la hiérarchie actuelle des meneurs?
Top 10.
En NBA.
Ouais, top 10.
Top 10.
Ouais,
top 10.
C'est fort joueur.
Top 10, oui, très fort, mais top 10 sur 30, c'est pas non plus.
Top 10 sur 30.
Il y a 30 franchises.
Non, mais top 10 des meneurs.
Ouais, top 10 des meneurs.
Oui. Donc sur 30 meneurs potentiels, il a raison.
Oui, sur 30 meneurs titulaires.
Ouais, mais t'as le top 2 sur le poste de pivot.
Ça, tout à fait. Non, mais j'aime beaucoup De'Aaron Fox, mais je ne me rends pas compte effectivement de où on le place aujourd'hui. Il y a une telle densité en NBA en ce moment que...
Je crois que c'était le seul fort joueur que pouvait éventuellement espérer les Spurs. Il a 27 ans. Et tout à l'heure, on parlait du trail très secret de Doncic et Anthony Davis. Celui-là, il est moins secret, hein, parce que De'Aaron Fox, apparemment, a déjà visité San Antonio 50 fois avant d'être tradé. Donc, c'est un énorme atout, parce que les Spurs manquaient de deuxième force offensive. Ils avaient des garçons capables de temps en temps de mettre 20 à 25 points. Là, vous avez un mec qui, tous les soirs, c'est minimum 25, De'Aaron Fox. Et quand vous aspirez aujourd'hui, quand vous regardez la NBA d'aujourd'hui, les top teams, il y a deux forts scoreurs dans chaque équipe. Cleveland, Boston, Brown, Tatum et compagnie. Donc là, il fallait une autre...
Et surtout là, c'est une menace extérieure, ça va peut-être un peu libérer...
C'est pas une si grande menace extérieure que ça. Il a confiance en lui, il en prend.
Je suis à 32-33%
à 3 points. C'est pas sa spécialité. Par contre, a déjà fait ses armes en pick and roll avec Sabonis, un autre pivot européen. Donc avec Victor Wembanyama, ça devrait la coller.
Il sait que s'il reste à 0 degré, il va recevoir le ballon.
Exactement. C'est un très bon passeur, surtout qui est très clutch. De'Aaron Fox, hein, il avait été le joueur le plus clutch, je crois, il y a 2 ans, quand il ramène sacrément en playoff. Hein, quand même, rappelez-vous la saison des Kings il y a 2 ans avec Mike Brown, elle est exceptionnelle.
Les Kings avaient une belle équipe, c'est un peu aussi curieux. On en dira un mot, mais termine.
Oui, c'est un mec qui est en pleine forme, qui est très très fort scoreur. Les défenses vont pouvoir aussi maintenant peut-être éventuellement lâcher un peu Victor Wembanyama pour se concentrer sur De'Aaron Fox.
Ça m'intéresse pour lui, non?
Parce que sinon, si il va en mettre 30, il a fait un match à 60 déjà, De'Aaron Fox, dans sa carrière. Donc voilà, le signal envoyé à Victor en disant écoute, on essaye de t'accompagner. Victor doit être très content.
Maintenant, Chris Paul un peu moins peut-être.
Non, Chris Paul, il a passé l'âge de bouder. Ils ont dégagé Trey Jones, donc Chris Paul, il jouera quoi qu'il arrive entre 18 et 23 minutes. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant dès cette année pour gratter la 10e place? Je suis pas sûr.
Ils partent de loin.
Fred.
En fait, le problème, c'est qu'ils partent de loin et je sais pas, il faut attendre l'adaptation.
Ils ont 4 victoires de retard.
Deux joueurs de ce calibre-là qui jouent ensemble, c'est compliqué, mais ils ont mis un coup de boost. Mm-hmm. Les Spurs, qui sont plan-plan, pépère d'habitude, ben là, ils ont dit ok, on accélère vraiment avec un joueur jeune qui va apporter cette densité, cette capacité à scorer, effectivement, à être clutch. Et tu perds personne sur ce trade, surtout.
Ouais,
tu perds personne. Alors oui, Trey Jones, on peut dire que tu perds un peu, mais concrètement,
mais
t'as Chris Paul,
Zach Collins, bout du banc.
Trey Jones, on l'a vu à Paris, mec. Merci beaucoup.
Zach Collins, on l'a pas vu. Il était là, on l'a pas vu.
Quand Zach Collins, tu perds quoi si Sioko, il jouait jamais et tu perds certains tours de draft qui n'étaient pas vraiment à toi et qui n'étaient pas complètement fous. Donc je trouve que le move est incroyable et tu fais un gros step. Après, encore une fois, ça va être dur.
Et puis, si tu compares l'année dernière, donc l'année d'arrivée de Victor, ils ont énormément progressé quand même.
Hein. Ah oui, ils ont tous
à la fois en recrue et aussi en progression individuelle.
Ils ont quasiment gagné autant de matchs que la saison dernière, donc c'est déjà très bien. Et puis c'est bien dès la deuxième saison de Victor vis-à-vis des Spurs, parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, t'es pas à l'abri de Victor à la fin de son contrat rookie. Ils disent je me barre en fait parce que vous m'avez pas donné ce que je voulais. Donc là, c'est très bien.
À la fin de saison prochaine. C'est ça, hein.
Mais encore
non,
dans deux
parce
ans.
Il y a les Spurs qui ont une quatrième année en option qui peuvent.
Il reste quatre ans. Après, il est protégé. Les rookies sont free agent protégés. Donc, les Spurs peuvent matcher une autre proposition d'une franchise. Donc, mais là, tu te dis qu'effectivement, avec la venue de Fox, alors, il faudra négocier sa prolongation aussi à De'Aaron Fox qui va venir. Mais. Tu te dis clairement que cette équipe, si elle avait démarré la saison, elle faisait clairement partie des contenders pour les.
On n'est pas sur un papy. Quoi. Enfin, non, la doublette,
c'est l'avantage.
La doublette,
non, 27, il est en pleine. 27, 27,
27, et qui a vraiment envie de venir, tu vois. Oui. C'est pas Luca qui est
match,
choqué.
Là, le De'Aaron Fox, quand il a appris qu'il est tradé aux Spurs, il n'a pas fait la gueule.
Mm-hmm. Il a sorti le champagne.
Il a demandé à tout le monde.
Tu vois, c'est pas facile d'attirer des joueurs aux Spurs.
Tu récupères un mec qui est content d'y être.
Oui, mais je suis d'accord. Sauf que tu peux pas, d'un côté, dire ouais, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de jouer avec Victor Wembanyama, et quand t'es tradé, dire que t'es pas content. C'est pas possible.
Tout à fait. Donc, trop tôt pour
le
cette saison d'Istif, t'es d'accord avec ça, toi ?
Un peu tôt, oui. C'est un peu tôt. Après, ça peut matcher d'un seul coup et ça peut fonctionner, évidemment, mais sur le principe, c'est un peu tôt.
Pareil, Arnaud ?
Pourquoi pas ? T'es quand même qu'à 4 victoires, il reste pas mal de matchs, ils peuvent assurer. Puis, c'est la rencontre du Fox et du Coyote.
Il est content.
Avant l'émission déjà. Avant l'émission.
Non, elle m'est venue comme ça.
Mais,
il est en train de se mouiller les yeux, okay. Il a fait ça.
Mais c'est un trade qui... passe un peu inaperçu parce qu'il y a Doncic Davis. Mais s'il n'y a pas Doncic Davis, pense qu'on fait plus de choses sur De'Aaron Fox qui arrive aux Spurs avec Victor Wembanyama.
Alors, Sacramento, quand même, on a dit un mot parce qu'ils perdent un meneur et récupèrent un scoreur avec Zach LaVine. Est-ce que le move est bon ?
Bah, ils vont retrouver c'est la doublette LaVine-DeRozan qu'il y avait aux Bulls.
Qui a bien fonctionné, énormément d'ailleurs.
Ouais. Après, Sacramento, c'est très étrange. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire cette bascule négative par rapport à cette saison qui était exceptionnelle il y a deux ans. Pourtant, ils ont des bons mecs. Malik Monk, qui fait une saison magnifique. Oui. Malik Monk, qui est très fort joueur. Domantas Sabonis.
Qui va avoir plus de responsabilités, Malik
Monk. Sabonis, j'ai quand même un point d'interrogation sur ce garçon.
Sabonis, c'est une machine à stats et c'est tout.
Ah ouais.
J'ai un peu moins fort que l'année dernière.
J'arrive à cette conclusion aussi. Que c'est un mec que tu prends en fantasy. C'est un joueur de fantasy, mais est-ce que c'est vraiment un mec qui peut t'amener quelque chose sportivement ? Je sais pas en fait. Je sais pas.
Qu'est-ce qui lui manque ?
La volonté de protéger le cercle, de la taille, du gabarit.
Parce
oui,
il est adroit quand même.
Il est très adroit, mais il est
très costaud aussi. Hein.
Il est sous-dimensionné pour son poste et encore une fois, il protège pas le cercle. Et à un moment, t'as pas de protecteur de cercle. Qui derrière lui, en plus ?
T'as beaucoup de mecs comme ça. T'as trois mecs qui se ressemblent, qui sont un peu des machines. Nikola Vucevic est une machine à stats à Chicago. Valanciunas, quand il joue pas beaucoup, il a fait double-double cette nuit avec Washington. Et Domantas Sabonis, trois pivots européens qui font des cartons. Mais qui sont pas décisifs en fait dans leurs équipes. Voilà, qui sont plus des joueurs.
Mais c'est pas pour Gasol.
Il va te faire des chiffres, après, mais ils vont pas avoir de poids.
Si t'as d'autres joueurs autour, c'est le cas de Sacramento pour le coup. Parce qu'il y a quand même DeRozan. Bon, il y avait Fox, mais il y a Malik Monk. Enfin, c'est quand même une belle équipe.
Moi, je trouve qu'au poste de meneur, c'est compliqué quand même. T'es obligé de faire jouer Malik Monk meneur. Je suis désolé, je suis pas sûr que ce soit vraiment ton poste. Et t'as Keon Ellis, oui, qui est intéressant, qui peut être défenseur, mais qui est loin d'être au niveau d'un De'Aaron Fox. Donc, je pense qu'ils perdent un peu. Et t'as surtout deux joueurs. DeRozan et Zach LaVine, c'est quasiment le même poste.
Bah, c'est un move pour se dire.
Même s'ils jouent pas de la même manière, c'est quasiment le même
poste. Ils ont vu, c'est un peu la même logique qu'on évoquait tout à l'heure pour Doncic, c'est qu'ils ont vu que dans 18 mois, De'Aaron Fox est en fin de contrat et qu'il allait partir. Donc bon, on le monnaie.
Et alors, les Chicago Bulls, donc les fans vont encore pleurer pendant quelques années avant d'avoir une équipe capable de jouer le titre.
Ouais, ils ont les Bulls, je pense. Vraiment.
Bravo, frère.
Oh oui. Là aussi, tu l'as préparé ?
Non, pas du tout. Non, mais je suis mouillé aussi la nuque.
Là, ils vont descendre dans les bas-fonds de la conférence Est. Là.
Ouais, bah, objectif Cooper Flag.
Ouais.
Repartir Guidi, Boutzelis et Cooper Flag. Voilà.
Ouais, Boutzelis, t'as Kobe White.
Josh Guidi qui est très bien cette saison.
Ouais, Josh Guidi, c'est pareil, Arnaud.
Joueur à stats ?
C'est des stats, oui, c'est ça.
Ouais, il fait des stats.
Il pèse pas. Il fait des triple doubles de temps en temps.
Il va pas de Guidi vers quoi que ce soit.
Alors, Keon Ellis, tu peux voyager.
Tu peux t'envoler.
Tu peux voyager, Keon Ellis.
Bon, on a fait le tour ou quoi ?
On a fait le tour, tu veux faire que tu veux parler
de quoi ?
Sissoko.
Sissoko, qui fait un peu.
Au moins le match à Paris.
Tout ça, mais qui est transféré. Je pense que.
Au niveau de la qualité de vie, il est gagnant, là, quand même.
Ça ramène tant.
Ça kiffe,
c'est pas mal. On se retrouve en Californie, c'est tranquille.
C'est nice. Oui, non, mais c'est. Non, mais sans
Antonio, c'est bien. Tu préfères vivre à Sacramento ou dans le désert, toi ?
Après, il y a une rivière.
Ah oui, il y a une rivière.
Non, après, c'est... après t'es pas au bord de la mer à Sacramento. Hein.
Non, non, mais est-ce que je suis un bâtard si je dis que si Soko, ça va finir à Las Vegas dans 2-3 ans.
Mais c'est peut-être bien pour lui.
Peut-être enfin, que c'est mieux pour lui.
Regarde Théo Malédon.
Méfie-toi de Las Vegas dans 3-4 ans avec Ryan Rupert. avec Sidi Sissoko,
Zachary, non, pardon,
méfie-toi, avec Alexandre,
Sartre,
t'avais dit non, je pense
ah,
que
peut-être, non, avec Armel Traoré,
pas comme Dadier,
méfie-toi,
objectif Euroleague,
Ousmane Dieng,
et Camille 21,
allez, on exactement. Passe à la partie ouais. Historique, toujours sur les transferts.
Inside to Kareem Abdul-Jabbar, takes it in there, dribbles around Eaton, beautifully slammed up, just gets set.
Kareem Abdul-Jabbar will officially become a member of the Los Angeles Lakers.
Breaking news.
Happened.
And it's Golden State for Kevin Durant.
Wow.
Think about that team.
Oh, no! Oh, no! Assist by Steph Curry.
The Lakers acquired talented big man Pau Gasol from the Grizzlies.
Bryant looks inside, finds Gasol, Gasol, count it, and a foul!
When Mitch Kupchak came to you and said something like, I can get you Pau Gasol for Kwame Brown, what did you say back?
No, you can't.
Alors, tiens, juste avant de démarrer...
Oh, le que... Phil Jackson, je suis toujours mort de rire. Parce que c'est Phil Jackson qui est interrogé. On dit, quand Mitch Kupchak, le GM des Lakers, vient vous voir et dit, je peux t'avoir Pau Gasol pour Kwame Brown. Alors, ça résume très sommairement le trade. Et il dit, non, tu peux pas.
Voilà. Alors, est-ce que vous allez nous parler de ça? Je sais pas, on va voir. Juste, est-ce que vous allez le souvenir d'une info NBA qui vous a autant surpris que celle de samedi?
Autant surpris
que Anthony Davis, Luka Doncic.
AD Warriors, peut-être, qui décide de le reste. Mais c'est pas les trades, c'était l'intersaison.
Ouais, c'est l'intersaison.
C'est pour ça que c'est.
Le Bronowit aussi. Le Bronowit. C'était. Alors, même si on s'en doutait.
Lebron, il m'a fait une aide à faire The Decision.
Mais voilà, la chemise cochonou, tu vois, tout le drama. Mais même si t'es pas forcément surpris qu'il parte, mais c'était. Tu vois, c'était quand même le.
C'était très attendu en
tout cas. Le meilleur joueur du moment.
Alors, vous allez me raconter un trade de cet acabit-là, un trade qui vous a rendu fou. Fred. Tu démarres.
Bah, j'ai choisi les Lakers aussi, encore une fois, pour un trade qui, sur le papier, semblait complètement déséquilibré et complètement fou, justement aussi. Parce que le 1er février 2008, avec les Lakers, on va récupérer Pau Gasol.
Il a dit on va récupérer.
Bien sûr, c'est les Lakers. Bon, donc, les Lakers, pardon, vont récupérer Pau Gasol. Pau Gasol, qui était un joueur très bon à Memphis, évidemment. Et tout le monde a commencé à dire mais c'est pas possible. Pour cette contrepartie, c'est impossible, il y a un vrai problème. Et donc, Kwame Brown, évidemment, Aaron McKee, Javaris Crittenton, je ne connais même pas.
C'est lui qui a...
Avec un pistolet.
Crittenton, je voulais quand même parler de lui. En 2010, donc, problème avec Gilbert Arenas, avec les pistolets, on se rappelle. En 2013, inculpé de meurtre. Et en 2014, arrêté parce qu'il était trafiquant de drogue aussi. Donc un bon mec. Deux tours de draft, donc, pour continuer juste l'échange. Et Marc Gasol.
Tu peux être un bon mec en vendant de la drogue.
Oui.
On en connaît tous.
C'est un peu plus rare. Et donc, et donc un Marc Gasol que personne ne connaît, qui pour l'instant n'a pas joué en NBA, et donc qui va faire le chemin inverse de son frère.
Il appartenait, les droits de Marc Gasol étaient aux Lakers.
Exactement. Et donc, il se trouve que directement, ça va payer pour les Lakers. En 2008, ils font finale, qu'ils vont perdre contre les Celtics. Ils vont faire le doublé 2009-2010, ils vont battre le Magic et Boston. Il va avoir son maillot retiré, Pau Gasol, à Los Angeles. Et vous savez quoi ? Marc Gasol aussi aura son maillot retiré à Memphis, à côté de Zach Randolph. Ce qui est assez incroyable. Alors il y a ce truc incroyable de dire que ces deux frères qui au départ paraissaient être un trade complètement fou et juste pour les Lakers, finalement Memphis a été super content de récupérer. Et aussi, surtout, le marqueur de différence qu'a été Pau Gasol pour permettre à Kobe de revenir en finale et de gagner deux titres.
Oui, ça reste quand même un move de génie pour les Lakers.
Ah ben oui,
parce qu'en fait, Marc Gasol, c'est un deuxième tour.
C'est un deuxième
48e
tour.
48e choix, en fait. C'est ça qui a choqué un peu tout le monde. Parce que
Dire quand même que Marc Gasol est le seul avec Zach Randolph actuellement à avoir le maillot retiré. Alors bien sûr, Tony Allen bientôt va avoir son maillot retiré. Il n'y a que trois joueurs du côté de Memphis. Et Marc Gasol en fait partie.
Arnaud.
C'est bizarre que Pau, il n'ait jamais joué à Arthez.
C'est bien.
Ça me fait rire, Arnaud. J'aime bien. Je suis bon public. Hein.
Très bien. Oui, Arnaud, c'est à toi.
Je vous amène
trois années plus tard.
2011, alors.
22 février.
C'est pris pour Pierre Belmar, mec. Il nous compte des histoires.
Monsieur Stephen Brun, le 22 février 2011. Carmelo Anthony est transféré à New York après des semaines de mélodrama. Je veux quitter Denver, je boude, etc. Et là, c'est hype de folie. C'est le prodige qui revient. Vidéo Garden, I'm coming home. On met des citations de Carmelo. Je veux être le futur Bernard King. C'est ce qu'il avait dit quand il était tout jeune. Hype de folie. Il rejoint Amare Stoudemire, Tyson Chandler. C'est Mike D'Antoni le coach. Ça y est, New York va revenir. Le trade de l'époque, arrivé donc à New York, de Carmelo Anthony, Chauncey Billups, Sheldon Williams, Anthony Carter, Reynaldo Balkman et Corey Brewer. Denver récupère Raymond Fenton, Danilo Gallinari, Wilson Chandler, Timofey Mozgov, Kostas Koufos, un premier tour de draft 2014 et puis un petit peu de cash. Et Minnesota est là dans la balance. Ils sont bien là, ils sont gentils puisqu'ils récupèrent le fameux Eddie Curry, Anthony Randolph et un second tour de draft. C'est une hype incroyable. Je suis allé au Madison Square Garden un an après. Alors bon, Carmelo avait un peu pris le bidon.
T'as payé ta place ?
Oui, j'ai payé ma place. mais voilà, c'était l'enfant prodige de New York qui joue aux Knicks. Bon, le bilan est quand même mince puisque à New York, Carmelo n'a même pas un bilan à l'équilibre. 196 victoires pour 216 défaites. Un seul tour de play-off franchi. Et puis, bah, la mayonnaise n'a pas pris. Mike D'Antoni sera viré. Le Stoudemire.
Alors, est-ce que c'est pas le problème, c'était pas le coach quand même.
Mike bah, ils ont changé après. Ils avaient pris Mike Brown, je crois. C'est le Stoud qui se pète la main contre un extincteur.
Génies, quoi.
Carmelo, bah c'est Carmelo, c'est aussi.
Il a mis les cartons quand même.
Aussi dieu offensif qu'il est. Voilà, de l'autre côté du terrain, et puis bah c'était le petit chouchou. Voilà, c'est aussi ta star à gérer. Pour Denver, c'était pas trop mal puisque 18 mois après le trade, ils sont premiers à la Conférence Ouest. Alors ils vont se faire taper par les Warriors en playoff, mais t'as quand même un bilan à près de 60 victoires. George Karl meilleur, coach, etc. Donc peut-être plutôt gagnant pour Denver, mais c'est sur le côté médiatique intense, la hype de folie de l'époque. En plus, New York, les Knicks, le Madison, les médias, etc. Tout le monde, c'était fou de voir Melo enfin venir à New York.
C'est difficile New York hein, quand même.
Il paraît.
Non mais c'est vrai.
Oui, il paraît.
Alors là, c'est l'équipe actuelle tourne bien.
C'est vrai.
Avec,
avec 5 joueurs qui jouent 40
minutes. Mais avec des vrais bons joueurs, mais qui ne sont pas arrivés dans la peau d'une superstar comme Carmelo.
C'est vrai.
C'est et en plus, ça, hein,
les
faut,
Français
hein.
réussissent très bien en général à New York.
Vraiment. Bon, Stephen, à toi.
Écoute, moi je vais te parler de Kareem Abdul-Jabbar, hein, qui a été tradé aux Lakers en 1975. Jabbar est drafté par les Bucks en provenance de UCLA, donc déjà des attaches à Los Angeles. Aux Bucks, Jabbar est champion NBA pour seulement la troisième année d'existence de la franchise. Ça n'a jamais été fait, c'est le record pour une nouvelle franchise d'être aussi rapidement champion NBA. Jabbar était associé à Oscar Robertson à l'époque, une autre superstar qui était d'ailleurs là au NBA Paris Game, qui a été présenté en tant que légende. À Milwaukee, Jabbar c'est 3 fois MVP, 2 fois meilleur score et rookie de l'année. Oscar Robertson prend sa retraite en 1974, juste après avoir perdu un match 7 contre Boston en playoff, et Jabbar annonce au GM de l'époque qu'il veut quitter le Wisconsin. Donc l'état-major des Bucks un peu en panique, convie Jabbar au restaurant pour manger et pour discuter, et l'état-major des Bucks lui demande « Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu es mécontent de notre travail ?» Et Jabbar dit « Non, vous n'avez rien à vous reprocher, sauf que je suis arrivé à une période de ma vie où mon mode de vie, mon fonctionnement ne correspond plus à la ville de Milwaukee et à l'état du Wisconsin. J'ai d'autres aspirations. En gros, il voulait un peu plus de lumière. Et les Bucks, et Jabbar, à qui il reste dans le contrat, ne veulent pas prendre le risque de perdre Jabbar pour rien du tout. Donc, ils cherchent les meilleures contreparties possibles et ils ciblent 3 destinations, New York, Washington et Los Angeles. Finalement, ça tombera 3 ans plus tard, un deal avec les Lakers. Ils recevront 4 joueurs en échange plus du cash. Et à l'époque, c'était quasiment le même tremblement de terre qu'aujourd'hui. Quand vous tradez Jabbar, qui est un joueur ultra dominant, c'était tremblement de terre sur la planète NBA. Et puis, on connaît le bilan de Jabbar aux Lakers. Hein, c'est phénoménal. C'est 5 bacs de champion, 3 autres titres de MVP. Et les Bucks, eux, auront attendu 46 ans avant de regagner un titre NBA. Donc, parfois, bah, des trades te font pas
sentir. Imagine, il y a les réseaux sociaux à l'époque là.
Bon là là.
Explosion.
Ah ouais, le bordel.
C'est peut-être le trade le plus fantastique finalement de l'histoire.
Parce que Jabbar était le joueur ultra dominant.
Il était
dominant.
Déjà Kareem Abdul-Jabbar.
Donc il arrive à LA, ça lui permet de faire des films avec Bruce Lee, y a-t-il un pilote dans l'avion et compagnie, ce qu'il n'aurait pas pu faire dans le Wisconsin.
C'est le mec, on en parle encore à peu près une fois par mois dans le Moscato Show sur RMC. Voilà, grâce au bras roulé.
Pas vraiment prononcé correctement, mais...
C'est pas grave, c'est normal.
Abdul-Jabbar.
Bon, vous êtes prêts pour un quiz?
Oui.
j'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier, c'est parti chez Sting.
Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en
premier.
Et là,
c'est après ou pas?
C'est Alex.
Le roi des corps verts ménagères.
Ouais, exactement. C'est plus trash que ça, hein. C'est plus violent.
Fuck you.
Bah, tu te rapproches.
Asshole, motherfucker, son of a bitch.
I lock that shit up, boy. Fermez sa gueule à cette merde. Ça fait rire, notre ami Bigger Staff. Hein.
La vulgarité.
Il aime les insultes.
Alors, c'est une boucle qui va partir d'un joueur tradé pour y revenir, simplement. Et nous allons passer par l'Europe à un moment, vous verrez. On va faire un petit voyage dans le basket. De'Aaron Fox, vrai ou faux? On démarre avec Steve. Vrai ou faux? À l'université
de Kentucky.
Exactement. Il a choisi le numéro 0 car il n'a peur de personne, dit Aaron Fox.
T'aurais vraiment inventé cette connerie, Pierrot?
Un peu, hein. J'en ai inventé des pires.
Le 0 hein. Parce qu'il n'a peur de personne. Ouais. C'est pas le rapport, mais je vais dire
zéro,
oui.
0, peur de 0.
Zéro fear. Ouais, ok, c'est vrai.
Une crainte des gains, comme on dit à Marseille. C'est vrai. Arnaud, vrai ou faux? À Sacramento, il porte le numéro 5 en hommage à Jason
branlette.
Kidd.
Quoi?
Il est malade, le mec. Non, mais censurez-moi ce mec. C'est pas possible.
C'était gratuit. En hommage à Jason Kidd.
Oui, à Jason Kidd.
C'est faux.
C'est faux, absolument. C'était son numéro au lycée.
T'es quand même bon pour inventer des trucs comme ça.
Et numéro 5 de la draft. Et enfin, Fred à San Antonio, il va porter le numéro 4 en hommage à ses 4 enfants.
C'est faux.
En hommage à sa sœur.
Sa femme.
Sa femme.
Numéro 4. Oui. Il va porter le numéro 4, sa femme.
À Texas Tech, je crois, une université.
C'est rookie,
Texas,
sa femme. C'est fuck, c'est rookie.
Donc, tout le monde a un point, là. Bravo. Donc, lors du trade de Kawhi Leonard de San Antonio.
Vrai ou faux ou c'est...
Non, ça y est, on est parti. Là, on est parti à San Antonio avec De'Aaron Fox. Lors du trade de Kawhi Leonard de San Antonio à Toronto, quel joueur actuel de Sacramento...
DeRozan.
Aux Spurs. C'est
DeRozan.
Le premier.
Ouais, wow. Je pense que je démarre avant.
Il démarre en premier. vous vous souvenez avec qui? Avec qui d'autre dans le trade? Il y avait Jakob Poeltl.
Il y avait Poeltl qui est revenu à ton retour.
Danny Green qui part avec Kawhi. Donc, DeRozan, pour quelle raison les Chicago Bulls ont-ils laissé partir DeMar DeRozan à Sacramento alors qu'au départ, ils souhaitaient le garder?
Ses enfants?
Parce qu'il voulait jouer avec Aaron Fox.
Non, pas du tout.
Il a envoyé un blanc avec sa question.
Ah oui, elle n'est pas facile, mais ça a été dit là, très récemment, ça a été expliqué.
Des soucis familiaux?
Non, c'est pas du tout ça. Ils voulaient le garder parce qu'ils aimaient beaucoup DeMar DeRozan.
Parce qu'il y a moins d'impôts à Sacramento qu'à Chicago.
Alors, ils ne voulaient pas prolonger.
Ils ne voulaient pas. En fait, pour service rendu, ils lui ont laissé la chance d'aller chercher une bague quelque part.
Sacramento?
Ils ont accepté de le laisser partir.
À Sacramento.
Il y aura plus de chances qu'à Chicago, toujours, non?
Oui, mais pas.
Mais tu sais pourquoi il a signé à Sacramento? Il l'a annoncé partout pour De'Aaron Fox.
Oui, mais parce que il pensait avoir plus de chances là-bas.
Oui,
mais après, probablement.
Peut-être qu'il y a des meilleures bijouteries à Sacramento pour une bague. À Chicago.
Alors, c'est en tout cas Arturas Karnisovas qui a expliqué ça, dont on a parlé tout
Cholet,
à l'heure.
Cholet.
Le vice-président des opérations basket au Bulls, c'est pas la question. Arturas Karnisovas, avec quel club il a été finaliste de l'Euroleague?
Karnisovas
deux fois en 96 et 90.
Real Madrid?
Maccabi?
Non.
Maccabi?
Non.
Barcelone.
Ouais, c'est ça. Exactement. Barcelone.
Oui.
J'ai dit trois fois.
T'as démarré avant, là?
Donc, trois points.
Je suis le seul à avoir répondu.
Barcelone, exactement. Alors, vrai ou faux, ils ont joué à Barcelone?
Ah, c'est bien, ça.
C'est bien?
Ouais, j'aime bien.
Si tu commences, c'est facile, en plus. Hein. Il est très facile, ce vrai ou faux.
Vas-y.
Ricky Rubio? Oui.
Bien sûr, l'année dernière.
C'est vrai.
Mais il a joué avant aussi.
2009 déjà, pendant deux saisons. Arnaud Valadon, Edwin Jackson.
C'est vrai,
absolument, c'est 2014-2015. Fred, Sergio Rodriguez.
Sergio.
Non,
c'était le seul qui pouvait se faire avoir et c'est bon, bravo.
C'est fou. Un joueur du Real.
Dans quelle franchise NBA il a joué Sergio Rodriguez?
Portland,
ça va plus vite chez Steph, moi je suis désolé. 5 points pour Steph, 2 pour Arnaud, 2 pour Fred. Quel joueur belge joue à Portland?
Camara.
C'est Arnaud Valadon.
C'est
Arnaud Valadon, Toumani Camara, qui est le coach de Portland.
Billups,
oui.
Ah, j'ai dit tout le nom.
Mais toi, t'as hésité, je sais pas si Arnaud.
Non, moi j'ai pas dit. Ah bah, j'ai pas dit Billups, moi.
J'ai hésité.
Oui,
j'ai dit Chauncey Billups, j'ai dit tout le nom, en fait.
Mais Billups est sorti là-bas.
Tu peux réécouter, hein.
Bah, écoute,
tu réécouteras.
J'arrête de jouer alors.
Bah, écoute, le podcast, ça fait des.
Non, non,
des,
non,
si, ça fait des téléchargements.
Surtout, là, chaque fois dans le doute, tu me le donnes pas, donc ça m'énerve.
J'ai pas de doute, là.
Eric Dimeco. Oh, Eric Dimeco, on dirait. Oh, Kikadi.
Je suis pas fait.
Le problème, c'est que j'ai pas de doute, là.
Non, ça fait deux fois que t'as pas de doute, comme par hasard.
Le doute,
déjà sur Camara, je suis pas sûr.
Le doute m'habite.
Sur Camara, c'est Arnaud Valadon.
Ok.
Voilà. Alors, on est à 6 points pour Steph, 3 pour Arnaud, 2 points pour Fred. Qui boude ?
Ben, je joue pas là.
Qui boude ? Je sais pas. C'est les questions.
Non, Fred, tu joues. Tu joues parce que tu vas voir, il y a des questions pour toi qui arrivent.
Mais il boude vraiment. Il fait semblant.
Non, je réponds vraiment.
Oui, il va répondre.
Alors, Chauncey Billups.
Ouais, qu'est-ce qu'il a fait ?
Qui est coach de Portland. Qui a bien sûr
eu
ses meilleures années à Détroit. Mais par quelle franchise a-t-il été drafté, Billups ?
Ouf, Nets.
Salopio.
En 97.
Orlando ?
Non. Troisième position. Il le sait, Fred, il ne veut pas répondre. Là, si tu réponds, tu vas être en premier.
Hein. Chauncey Billups. Il est drafté par...
Lakers ?
Il le sait, regarde, je vois dans ses yeux
par
qu'il
Portland.
Le sait. Non.
Non ? Je ne sais plus, il est drafté
par... les Spurs ?
Non. Je ne savais pas, hein ?
Non, c'est pas...
Joue en vert.
Phoenix ?
Par Boston ?
Par Boston, je l'accorde à Fred.
Après, Boston, il y avait les Mavs aussi. En vert, il y avait les Mavs aussi.
Ouais, mais bon, il savait, je vois dans ses yeux qu'il savait. 3 points pour Fred, 3 points pour Arnaud, 6 points pour Steph.
Imagine, il gagne le quiz comme ça.
On revient à l'actualité de Boston. Vendredi dernier, face à New Orleans, quel joueur des Celtics mêle le shoot de la gagne au buzzer ?
Tatum !
C'était une question pour Fred, ça. C'est Steve qui est parti en premier. Tu le savais, Fred ?
Oui.
Est-ce que ça arrive pas
mais
si
il
souvent ?
Mais il l'a pas vu, il l'a pas regardé par contre.
Il pense qu'il a marché.
Alors, toujours à Boston, non. Qui a déclaré hier, si vous êtes fatigué, dites-le-moi et je vous mets sur le banc.
Mazzulla.
Mazzulla, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est des joueurs qui se sont plaints ?
Parce qu'ils ont perdu.
Parce qu'ils, non, mais parce qu'ils se faisaient éclater par les remplaçants de Philadelphie.
-26.
Moins 17 à la mi-temps et ils ont décidé de jouer, ils ont gagné le match.
Il connaît pas la. Mais moins 26 dans le troisième carton.
D'accord.
Donc ça fait 4 points pour Arnaud, 3 points pour Fred, 7 pour Steve, mais j'ai l'impression qu'on a un Fred énervé. Donc on est passé à Philadelphie désormais.
Ouais.
Dans quelle université a-t-il étudié Tyrese Maxey ?
Tyrese Maxey ?
Ouais.
Kansas ?
State ?
Non. Si vous ne savez pas, vous réfléchissez.
Il est...
Philly.
Non. Fred.
Je ne sais pas.
Essaye. Columbia.
Mais non. Mais si vous ne savez pas, dites-vous qu'on approche la fin du quiz.
Sacramento.
Non.
UCLA.
Non.
Dallas.
On a commencé par quoi ?
Vrai ou faux ?
Kentucky. Comme dit Aaron Fox. C'est bon ?
Oui.
Voilà, on a fait le tour, mais Fred, il est toujours fâché, alors j'aurais voulu le dérider, là.
Il y a une énumération ?
Il y a une énumération, oui.
Voilà, après, il va revenir sur
compte les points, juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 7, 8
4 pour Arnaud.
Après, si,
pour...
après si, pour que Fred joue, je vais lui donner 2 points.
Allez, voilà.
Attends,
on donne 1 point de Steve et 1 point d'Arnaud.
Non, je veux pas de points, moi. Je veux pas de points.
On a tradé nos points.
Alors, Fox a le record de points cette saison, 60 contre Minnesota. C'est lui qui a fait le plus gros carton, mais 8 joueurs ont marqué au moins 50 points cette saison. Chacun votre tour, vous allez me donner un joueur. Sauf qu'il y a une petite subtilité, il y en a un qui l'a fait 2 fois. Vous avez le droit de me le citer 2 fois. Par contre, si vous en citez un autre une 2e fois et qu'il n'a pas fait, vous êtes éliminé.
Putain, je suis largué normal, là-dessus cette saison. Fred, il les a commenté.
C'est très facile.
C'est Fred qui va gagner.
Franchement, là. C'est très facile. Eh bien, Fred, c'est toi qui commences car tu comptes moins de points.
Il a dit quoi,
et dit
quoi
54.
Ah, je crois qu'il fallait dire un chiffre. Ah, c'est chacun notre tour.
Oui.
Je crois qu'il disait chier. Non, on l'a fait pour figurer.
C'est bon, contre Utah le 23 janvier, c'est bon. Arnaud.
Wemby.
Et évidemment, les 50 points face à Washington le 14 novembre. Steve.
Mec, je suis en galère de ouf.
T'es en galère ?
Je veux dire Nikola Jokic.
Jokic, c'est bon, 56 contre Washington en décembre. Fred.
Jokic une 2e fois ?
Mais non, c'est pas Jokic une 2e fois. Arnaud ?
Jalen Brunson ?
Brunson, c'est bon, 55 contre Washington. Washington, ils prennent des cartons. Hein.
Tu sais qui le. Ça rien à
j'en ai un autre.
C'est qui le Tintin là, qui a mis 2 fois 40 là, des Pelicans là ?
Trey Murphy.
Il a mis 41, c'est
non, mais ouais. Un joueur, hein, Trey Murphy.
Ah ouais, c'est ouf. Bref.
Ça... Et il a mis 32 avant. Il a mis 32, 40, 40.
Hein, il est pas dans la liste ?
Non, je suis pas éliminé.
Non, il reste Jokic, toi, Arnaud.
Ah, pardon.
Jokic, moi.
My bad.
Donc il y a un deuxième mec qui a mis 50 pions.
Non, là, il vous en reste encore pas mal à trouver.
Ouais, mais le problème, c'est que je les ai pas, frère.
Moi, j'en ai un.
Rien d'extraordinaire, hein.
Ouais, je cherche. Donovan Mitchell.
Non, c'est pas bon. Alors, attention, Arnaud, t'as déjà 6 points. Steve en a 9. Il te reste 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Tu peux le faire. C'est maintenant que ton destin s'écrit.
C'est dur.
Toi qui n'as jamais gagné un quiz dans ta vie, c'est maintenant. En tout cas, pas dans le Basket Time.
Là, je pense qu'en plus, je vais me planter, mais je sais pas. J'ai noté ce nom. Stephen n'a pas remarqué.
Attends de donner avant de donner un nom qui sort de l'espace, donne-moi les noms des mecs qui mettent des cartons.
Anthony Edwards.
Voilà, merci. 53 contre Détroit au début janvier. Ensuite.
Ils avaient perdu d'ailleurs, je crois.
Ils avaient perdu. Mais il a commencé.
Je sais pas, j'ai envie de le dire, mon fiche, mais.
Oui, mais dis-le. Si
pas crois. McCollum.
D'accord. Bon, donc,
est-ce qu'il y avait Cunningham?
Non, il n'y avait pas Cunningham.
Est-ce qu'il y avait Shea une deuxième fois?
Il y avait Shea une deuxième fois.
Il n'y avait pas Banchero, c'est lui que je voulais dire depuis le début.
Banchero, absolument, début de saison fantastique. Et depuis son retour, ils sont nuls. Alors ça, c'est quand même incroyable.
Et Wagner aussi est revenu presque
depuis,
en même temps.
Depuis qu'ils ont récupéré leurs joueurs, ils ne gagnent plus un match, Orlando. Ouais. Fred fait toujours la gueule. et il vous restait Giannis quand même.
Ah oui, ouais, je suis vraiment un citron.
Et Lamelo. On a mis 5 à Milwaukee.
Lamelo, il n'a jamais les LFGRC.
On finira là-dessus. Stephen a gagné le coup.
Quand t'es au ski, passe-moi ton Lamelo.
RMC Basket Time.